Radio Classique.
Il est toujours très difficile d'évoquer un sujet qu'on connaît un peu trop d'une certaine manière, parce que comment se repérer dans la forêt très dense de toutes les informations? En l'occurrence, notre personnage, notre grand personnage d'aujourd'hui, c'est une reine de France. Elle a été reine entre 1547 et 1559 et ensuite elle est devenue la reine-mère et d'une certaine manière la régente de ses deux premiers fils, François II et Charles IX, avant de devenir, la conseillère conflictuelle d'Henri III. Vous avez compris que nous allons parler de celle qui a cette mauvaise réputation à cause d'Alexandre Dumas et d'un certain nombre d'auteurs du XIXe siècle, mais qui est beaucoup plus intéressante qu'elle ne pourrait le paraître. Nous allons parler de Catherine de Médicis, la reine Catherine de France, cher Gérald.
Absolument, bonjour Franck. Et effectivement, à cause de la légende noire en réalité, on va parler de deux femmes exceptionnelles, deux femmes d'ailleurs, à l'agenda. On avait déjà eu deux femmes.
Il y a sa comparse.
On a à nouveau deux femmes aujourd'hui, deux femmes incroyables. Alors Catherine de Médicis, on va en dire beaucoup, mais c'est une femme d'équilibre. On va beaucoup insister là-dessus. Puis on va parler de Diane de Poitiers, donc, qui est liée intrinsèquement à Catherine de Médicis.
Oui, alors on la présente toujours comme la rivale de Catherine, mais elle en était aussi la cousine, il ne faut pas l'oublier.
C'était sa cousine, et puis il y avait un lien en fait bien plus complexe que ça. On va voir ça en tout cas.
Passionnant.
Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Kersanti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. whoz.com.
En octobre 1533, les galères pontificales, les galères du pape Clément VII, c'est un Médicis, Clément VII, comme par hasard. Ces galères sont en train d'entrer dans la rade de Marseille, arrivent au port de Marseille pour rencontrer la cour de France, sous la houlette bien sûr du roi François Ier. François Ier va en effet marier le deuxième de ses fils, Henri, le prince Henri, un garçon assez taciturne qui ne s'est jamais bien remis de la captivité qu'il avait subie en Espagne. Il va donc marier son fils Henri à la nièce du pape, une Médicis que certains, déjà pas très gentiment, appellent la banquière. Oui, c'est vrai qu'elle apporte un peu d'argent avec elle, hein, forcément. Et puis elle apporte la bienveillance pontificale, ça fait beaucoup d'atouts dans une même corbeille de noces. Et c'est donc Catherine, la toute jeune Catherine de Médicis. Je dis toute jeune, elle est née le 13 avril 1519. Autant vous dire qu'elle n'a que 14 ans au moment de ce mariage avec celui qui, lui, de son côté, a exactement le même âge qu'elle, Henri. Alors c'est une union qui va être très difficile, l'union d'Henri et de Catherine, puisque pendant les 10 premières années, il n'y aura pas de fruit à cette union. Et vous savez que lorsque une princesse, ou en tout cas lorsqu'une dame de haut parage épouse un prince de France, qui plus est un dauphin de France, puisqu'à partir de 1536, Henri va devenir le dauphin de France, son rôle c'est de donner des enfants à la couronne. Or, Catherine n'arrive pas à donner d'enfants. Quand je dis Catherine n'arrive pas, un médecin qui s'appelle Jean Fernel va prouver qu'en fait ce n'est pas Catherine qui n'y arrive pas, c'est son mari qui a une malformation des parties génitales, et cette malformation fait qu'il ne peut pas être fécond. Et il faut dire que cette malformation, ça tombe mal, correspond à une légère malformation également de la matrice de la jeune épouse. Donc, ce médecin va leur montrer comment faire, il va leur faire, si je puis dire, de la gymnastique pour qu'ils puissent, des exercices, et finalement vont naître, à partir de 1543, vont naître alors toute une ribambelle de petits princes et de petites princesses qui font que lorsque mourra François Ier en 1547 et que Henri II deviendra le nouveau roi de France, eh bien, il aura toute une descendance assurée avec son épouse. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant toute cette période de stérilité, Catherine a été défendue bec et ongle par son beau-père, on va voir pourquoi dans un instant, et puis après, lorsqu'elle est devenue la reine de France, elle est un soutien très fort pour son mari, et on la verra même se rendre devant le conseil municipal de Paris, réclamer des subsides au moment de la grande offensive des armées impériales et au moment de la bataille de la Saint-Laurent. C'est elle qui, en quelque sorte, prend les choses en main. à la mort de son mari, mort accidentelle au tournoi des Tournelles à l'été 1559. Vous savez que la lance de Montgomery est entrée dans la visière du casque du roi Henri II. Henri II est mort dans une, la pire des agonies de l'histoire de France. 8 jours de souffrance absolument intolérable et de nuit aussi du reste. Et à la mort d'Henri II, alors là, Catherine va pouvoir enfin montrer la plénitude de ses talents, de femme politique. N'oubliez pas qu'elle a du sang Médicis, elle sait gouverner et elle va devenir donc, d'abord sous le très court règne de François II, le pauvre va mourir de mastoïdite aiguë et il ne régnera quasiment pas, moins d'un an, mais surtout sous le règne de Charles IX. Alors on va voir Catherine jouer un rôle essentiel dans une période qui est terrible, puisque c'est le début des guerres de religion et qu'elle va constamment devoir jouer les arbitres. Est-ce qu'on peut la définir comme ça d'ailleurs, Gérald? Un arbitre entre le camp catholique et la Ligue et le camp protestant, les Huguenots de Coligny et des autres.
Ben ce point, en fait, ça va la poursuivre tout au long de son règne, en tout cas tout au long de sa gouvernance. Alors, sur Catherine de Médicis, c'est le titre de l'ouvrage qui a été écrit, on ne le sait pas trop, mais qui a été écrit par le grand Honoré de Balzac.
Oui, c'est vrai, oui, bien sûr.
Qui l'a décrit comme une femme extraordinaire, c'est ce qu'il dit, je le cite, qui a sauvé la couronne de France en déployant les plus rares qualités, les plus précieux dons de l'homme d'État. Alors on voit bien que...
C'est amusant parce qu'au XIXe siècle, si vous étiez bien... Vous étiez forcément un homme, hein, d'une certaine manière, de l'homme.
Aujourd'hui, la phrase Balzac, on lui dirait, il faut la revoir. Et c'est bien la plus belle synthèse que l'on puisse faire de cette reine, en fait, hein, qui ne ressemble à aucune autre. Alors voyons pourquoi. Alors tout d'abord, elle a quand même, Franck, une sacrée force de caractère.
Ah oui.
Hein. On l'a dit d'ailleurs, c'est assez marrant, parce qu'à chaque fois qu'on évoque des souveraines, on dit à peu près la même chose, Marie-Thérèse d'Autriche, la grande Catherine, on dit que elles ont dû faire face à des difficultés, des situations assez difficiles. Eh bien, elle n'y échappe pas, Catherine de Médicis. Elle naît dans une belle famille, très riche, italienne donc. Mais ça commence en fait les difficultés avec les républicains florentins, comme tu le sais, comme tout le monde le sait, parce qu'ils entendent profiter de la défaite du pape face à Charles Quint. Et du coup, eh bien, ils vont s'en prendre aux Médicis. Et elle va être...
Ça n'est jamais que la troisième fois que les insurgés florentins s'en prennent à la famille de Médicis.
Et cette fois-ci, ils s'en prennent même à elle, puisqu'elle est enfant, et on la menace de viol et même de mort.
Elle est orpheline, hein, faut dire.
Elle est orpheline. Et là, ces menaces-là vont la marquer, je crois, pour le reste de sa vie. Il faut toujours garder ça en tête. Après, il y a eu cette fameuse légende noire que tu évoquais tout à l'heure, qui va peu à peu s'installer, et en fait de façon assez persistante, assez injuste aussi, mais en tout cas persistante. Et on va avoir d'elle, finalement, peu à peu, une image d'une femme un peu machiavélique, capable de tout pour garder le pouvoir. Et on sait d'ailleurs que cette image a pris corps, principalement sous la Révolution, et en particulier avec Marat, qui n'a pas été très tendre, et tu évoquais Alexandre Dumas, qui ne va pas aider non plus. Alors que la tendance historiographique aujourd'hui est finalement plutôt à la réhabilitation. Alors, il y a ensuite sa rivalité. Alors, on va mettre des guillemets sur rivalité, parce que c'est plus complexe que ça, mais sa rivalité avec Diane de Poitiers, dans une vie de leader, c'est pas si négligeable que ça. Quand elle arrive en France, elle comprend vite que le cœur de son futur époux est déjà pris, en réalité. Il est pris par cette femme qui s'est occupée de lui depuis son plus jeune âge. Mais elle va, et c'est là une force de caractère, elle va parvenir à maîtriser émotion et jalousie, en fait. C'est une force de caractère incroyable. Elle est d'un immense courage. Alors, elle possède ensuite une formidable intelligence. Ça, je crois qu'on peut le dire. Des fois, cette phrase, on la connaît, hein, quand on la compare à Diane de Poitiers, on dit, certains diront qu'à la finesse des traits de Diane de Poitiers, elle oppose la finesse de l'esprit. C'est pas tout à fait exact.
Non, parce que pas tout à fait exact.
En réalité, les deux avaient une finesse d'esprit, indiscutablement. Et il est vrai que Diane de Poitiers était très très belle, on y reviendra. Il est vrai qu'elle pétille indéniablement d'intelligence, Catherine de Médicis. Alors, elle a peut-être un physique un peu moins avantageux, mais elle a une éducation très soignée, elle a des raisonnements très affûtés. Tu parlais tout à l'heure de son lien avec son beau-père, c'est-à-dire en fait François Ier, qui a été extrêmement important. Alors, elle a capté l'attention de François Ier, parce que d'abord, c'était une adepte de la chasse.
Oui, et c'était elle montait à cheval. Donc ça...
Et c'était une excellente cavalière. C'est elle qui a inventé d'ailleurs la façon pour les femmes de se...
Monter en Amazon.
En Amazon, de monter sur un cheval. Alors, elle a aussi des méthodes. Alors ça, c'est important en leadership, et on voit là que pour elle, elle considère qu'être une femme est un immense atout. Selon elle, les femmes font vivre l'amour, je la cite, hein, les femmes font vivre l'amour alors que les hommes font vivre la violence et la guerre. Et elle croit aux vertus de l'amour et elle aime la fête. C'est assez étrange, quand on regarde sa photo et qu'on lit son histoire, on ne sait pas ce qui vient immédiatement à l'esprit, mais elle a créé quelque chose d'incroyable, c'est les fameux escadrons volants.
Eh oui.
Qui sont des femmes ravissantes, dont elle contrôle absolument la vertu, hein, parce qu'elle a une éthique irréprochable. Et ces femmes sont censées attirer les hommes, non pas pour imaginer de vilaines choses, mais pour les détourner finalement de la guerre et les amener à penser un peu plus aux joies de la vie et à la paix. Alors c'est quand même une technique intéressante. Alors elle se passionne, et ça c'est important, on y reviendra sans doute Franck, pour l'astrologie, les mages,
ah bah
les,
oui,
les
sciences occultes. Elle est entourée de mages.
Entourée. Elle a comme Ruggieri qui est son astrologue, je crois qu'il a la chambre d'à côté,
oui,
à côté
sûr.
D'elle.
À Blois en tout cas, oui.
Exactement, et elle peut y avoir accès quand elle le veut. Alors certains évidemment évoquent sorcellerie, parce que astrologie...
Et empoisonnement.
Oui, à l'époque c'est la sorcellerie. Mais sur son lit de mort, alors qu'elle demanda le nom au confesseur, parce qu'en fait, alors son astrologue, comme Ruggieri, lui avait dit que sa mort aurait un lien avec
Saint-Germain.
Saint-Germain, exactement. Alors ça, c'est extraordinaire.
Ce qui veut dire d'ailleurs qu'elle se tient à distance de toutes les paroisses Saint-Germain. Elle va faire construire les Tuileries pour ne pas rester dans le Louvre qui est en face de Saint-Germain-l'Auxerrois, etc.
C'est
et
incroyable.
Finalement, il faut raconter comment ça finit. C'est
ça finit de façon incroyable, puisqu'en fait, elle fait tout, comme tu viens de le dire, pour éviter même le mot Saint-Germain. Et puis, sur son lit de mort, elle demande à son confesseur son nom et il lui répond Julien de Saint-Germain.
Incroyable.
C'est quand même une histoire assez incroyable. Alors enfin, il y a ce problème que tu évoquais avec le problème protestant, entre guillemets, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'important et qui a finalement été le point constant dans sa gouvernance. Mais elle avait quand même ses qualités d'équilibre et de compromis, et ça, nous allons y revenir un peu plus tard.
Alors, quand je t'écoute, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point ce qu'on appelle un grand leader, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup souffert. Parce qu'elle a beaucoup souffert, Catherine, d'abord quand elle est cette orpheline, effectivement, au moment de la troisième révolution de Florence, hein, elle a été quand même réfugiée dans un monastère au milieu des bonnes sœurs. On l'a habillée en nonne, on a fait comme si elle avait prononcé ses vœux pour la protéger de ceux qui venaient et qui voulaient la tuer, littéralement. Ouais. Hein. Ensuite, elle est à la cour pontificale, et vous imaginez déjà, il y aurait beaucoup à dire sur le pape Clément VII, qui, après tout, était un enfant naturel de Julien de Médicis, le frère de Laurent le Magnifique, et donc qui n'avait peut-être pas toute la légitimité requise. Et à la cour pontificale, on se demande qui est cette jeune fille, ce qu'elle fait là. Elle participe, elle assiste à un certain nombre de réunions au sommet. Elle voit son oncle, donc le pape en personne, régler un certain nombre de questions diplomatiques. Et elle ronge son frein, d'une certaine manière. Et puis, lorsqu'elle épouse Henri, elle tombe folle amoureuse de lui. Mais il faut dire, c'est la triste vérité que ce n'est pas réciproque, hélas, puisque lui, son cœur est pris ailleurs, et on va voir, et depuis toujours, hein, puisque lui est amoureux, évidemment, de la belle Diane. Et donc, bon, il est respectueux de son épouse, mais pas plus que ça, alors qu'elle est folle de lui. Et ça va être, là encore, sans doute une souffrance, il faut imaginer, hein, toutes ces années, d'abord en tant que dauphine, puis en tant que reine, et en plus une dauphine stérile. Alors, tout ça a dû être très difficile à vivre, et puis, il y a la mort atroce de son mari, la morgue.
Et rien de la détourner d'Henri II.
Rien, extraordinaire. La morgue incroyable de sa belle-fille, hein, Marie Stuart, qui va lui tenir la dragée haute. Personnage effroyable, entre parenthèses, la petite Marie Stuart. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle sera bien punie après, à son retour en Écosse et dans son bras de fer fatal avec sa cousine, la reine Élisabeth I d'Angleterre. Tout ça est très dur pour Catherine, et puis, elle devient responsable, si je puis dire, d'un royaume pour des enfants qui sont encore très jeunes. François II, Charles IX, personnage instable, et puis il y a de plus en plus ce divorce intime du pays entre les princes protestants et les princes catholiques, entre les villes protestantes et les villes catholiques. Il y a ce divorce qui va aboutir, vous le savez, au moment du mariage d'Henri de Navarre avec l'une des filles de Catherine, la reine Margot. ce mariage a lieu en août 1572 à Paris, et deux jours plus tard, alors que Catherine a sans doute donné l'ordre d'assassiner Coligny, les ordres royaux vont déborder, vont dépasser tout ce qu'il y a.
Bien
au-delà, pour créer le fameux massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. C'est une chose absolument horrible, ce massacre de la Saint-Barthélemy. Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est pour une part non négligeable dans la mauvaise réputation de Catherine de Médicis, parce qu'on pense, et on est quasiment certain maintenant, que Catherine, qu'on le veuille ou non, a donné l'ordre, enfin elle a extorqué à son fils Charles IX l'ordre d'assassiner tous ces protestants. Ça n'est pas un titre de gloire au regard de l'histoire, ça tout de même, il faut le dire. Et ce qui est bizarre, c'est que ça laisse entendre, pour ceux qui regarderaient les choses d'un peu loin et un peu trop vite, ça laisse entendre que Catherine est une femme extrêmement dure, extrêmement intolérante, alors qu'au contraire, elle était la douceur et la tolérance incarnées. C'est tout le paradoxe, en fait. Ça, c'est un paradoxe.
En fait, c'est la meilleure façon de résumer Catherine de Médicis, c'est de dire l'équilibre en toutes choses.
Voilà.
Parce que c'était vraiment ça. Elle était avant tout une inlassable négociatrice. Alors, si on fait un parallèle avec aujourd'hui, on dirait qu'elle négociait quasiment tout.
Elle ne fait que ça.
Elle fait que ça. Ça aurait été une formidable femme politique. C'est une diplomate hors norme. Elle intervient d'ailleurs en permanence pour accommoder et essayer de modérer les différents partis ennemis, ceux qu'on vient de citer, les catholiques d'un côté, de l'autre les protestants, et c'est elle qui va mener les négociations et qui va parcourir le royaume avec un courage absolument incroyable, puisque elle n'hésite pas sur les moyens, parfois à dos de mule, malgré les rhumatismes, bien souvent sans confort aucun. Et pour faire notamment respecter les édits de paix et l'autorité du roi aussi, qu'elle entend présenter au peuple de France. Parce qu'en fait, quand Charles IX est encore jeune, mais quand il va, pour qu'on le connaisse tout simplement, eh bien, elle n'hésite pas sur les moyens.
Elle fait un grand tour de la France avec son
absolument.
Fils.
Absolument. Mais à l'époque, un grand tour de la France, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, à la mort de son époux, Catherine de Médicis est considérée par, on va dire, les autorités protestantes, comme une personne, je cite, une personne ouverte d'esprit et sensible à l'injustice. C'est dire l'équilibre qu'elle avait. Et de fait, elle est partisane, on peut le dire comme ça, d'une politique de conciliation de façon assez permanente.
Il faut dire peut-être qu'elle a une foi très faible. On peut pas dire qu'elle croit pas en Dieu puisqu'on est au XVIe siècle, mais en tout cas, sa foi est très faible et que les questions religieuses lui paraissent secondaires. Elle a même du mal à comprendre comment on peut s'étriper pour des raisons religieuses.
En fait, elle est fondamentalement, parce que ce que tu viens de dire est tout à fait juste, elle est pour une sorte de tolérance civile. Hein, on connaît la séparation de l'Église et de l'État, et d'une liberté de culte. Mais je pense qu'elle aurait été différente si elle avait été extrêmement croyante et
pieuse.
Alors, c'est une fine politique, elle veut avant toute chose préserver l'unité de la France.
Voilà.
Parce que c'est un déchirement total à cette époque-là, on a du mal à l'imaginer. Et en cela, eh bien, elle est dans une forme d'équilibre total. Pour elle, sa mission, en tant que souveraine, consiste à faire en sorte que les violences soient atténuées, parce que ça a tendance à ravager totalement le pays. Mais sa recherche d'équilibre ne s'arrête pas là. Elle en fera preuve, on peut le dire, envers son époux, donc Henri II. D'abord, elle ne va pas lui reprocher son adultère, dont elle n'est pas, elle n'est pas ignorante de la chose.
De toute façon, elle n'a pas le choix. Là.
Elle
est mise devant
le
fait accompli.
Devant celle qu'on appelle Diane de Poitiers, la
plus que reine,
que elle de temps en temps appelle la putain du roi. Cette bonne guerre, mais elle aime le roi. Elle l'aime et elle sait jouer de patience. Elle a aussi donc cet équilibre vis-à-vis de Diane de Poitiers elle-même. Tu as rappelé tout à l'heure qu'elles étaient cousines. Alors on dit souvent qu'elles se détestaient. Alors c'est vrai qu'elles sont sans doute pas les meilleures. Enfin, il y a forcément des sentiments, on va dire divers et variés. Mais c'est elle qui va aider Catherine de Médicis. C'est-à-dire c'est elle qui va introduire Catherine de Médicis auprès de François Ier.
Mais oui.
Et c'est elle qui va aider Catherine de Médicis quand elle risque la répudiation parce que justement
exactement.
Elle ne peut pas avoir d'enfant.
C'est-à-dire qu'on a quand même souvent oublié la base, et on va venir dans un instant au personnage passionnant de Diane de Poitiers, on a oublié la base dans cette histoire, c'est que Diane a besoin de soutien à la cour, qu'elle a une grand-mère qui s'appelait la Tour d'Auvergne et que l'épouse de Laurent de Médicis, pas Laurent le Magnifique, hein, son descendant, qui était donc le père de Catherine de Médicis. La mère de Catherine de Médicis était Madeleine de la Tour d'Auvergne. Donc, elles sont cousines. Et évidemment, pour Diane, c'est un élément non négligeable de son pouvoir, de son assise, de son influence à la cour, que d'avoir sa cousine mariée à celui qui va devenir dauphin de France, bien entendu, et qui se trouve être par ailleurs...
L'amour de sa vie, mais en fait, ça l'arrange aussi, parce que Catherine de Médicis, pour elle, en tant que favorite, elle est moins inquiétante que d'autres. On sait qu'il y en aura d'autres, enfin, et qu'il y ait d'autres prétendantes.
En tout cas. On ne peut pas dire d'Henri II qu'il était très fidèle, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et du coup, elle a aidé Catherine de Médicis, mais en même temps, elle s'est aidée elle-même.
En réalité. De toute façon, si l'on devait définir la personnalité de Diane, nous y venons là dans un instant, elle n'a fait toute sa vie que s'aider elle-même. Alors là, il y a longtemps que j'avais envie qu'on en parle d'elle, parce que c'est sans doute l'un des plus grands malentendus de l'histoire de France. On a tendance à présenter Diane de Poitiers, qui était tellement belle, et dont Brantôme, qui l'a fort peu connue, et elle a toute sa fin de sa vie seulement, dont Brantôme nous dit qu'elle était immarcessible, c'est-à-dire que le temps n'avait pas de prise sur elle, et qu'elle restait à 60 ans passés aussi belle que lorsqu'elle en avait 25, nous dit Brantôme. Ça, je demande à voir, mais en tout cas, c'est la réputation qu'elle avait. Mmh. Elle était d'une très grande beauté, et les portraits, les tableaux de l'école de Fontainebleau nous ont laissé d'elle, évidemment, une image absolument somptueuse. Elle est la beauté incarnée, cette Diane de Poitiers, et donc... Comme on sait qu'elle était l'amour de la vie d'Henri II et que c'était un amour sans doute réciproque, eh bien, on a eu tendance à faire d'elle une sorte de favorite, pour ne pas dire de courtisane, pour ne pas dire même, dans l'esprit de certains, de cocotte. C'est évidemment tout le contraire. Alors expliquons ça en deux mots. Je vous ai dit que Henri a exactement le même âge que son épouse Catherine, mais par contre, Diane, elle, a 20 ans de plus. Eh oui. D'abord, elle ne s'appelle pas Diane de Poitiers. Ça, c'est une fois de plus Alexandre Dumas. Il y avait parmi les titres de sa famille Poitiers, mais pas du tout le Poitiers dans la Vienne. Hein. Non, c'est un pectueux Poitiers qui se trouvait en Provence, en vérité. Bref. En tout cas dans la Drôme provençale, si on veut être très précis. Et elle était d'ailleurs d'une famille drômoise, la famille de Saint-Vallier. Elle a été élevée, ce qu'on oublie parfois, par la sœur de Charles VIII, Anne de France, Anne de Beaujeu, hein, cette femme assez extraordinaire qui a...
Qui en a élevé plusieurs.
Alors là, tiens d'ailleurs, voilà un personnage dont on devrait suivre les pas.
Saison 3.
Anne de Beaujeu, extraordinaire. Bref, elle a été élevée, et d'ailleurs mal élevée parce qu'elles se détestaient l'une et l'autre, par Anne de Beaujeu. Et très vite, son père, Jean de Saint-Vallier, va la marier à un vieux monsieur qui est le sénéchal de Brézé. Et donc, elle devient grande sénéchal de Brézé. Son mari est sénéchal de Normandie. C'est un monsieur tout à fait aimable, qui va d'ailleurs être tout à fait charmant avec elle. Il va lui donner les filles que l'on sait qu'elle mariera à des gens très importants. Ce qui fait d'elle d'ailleurs aujourd'hui l'ancêtre de presque toutes les familles royales d'Europe. Hein, c'est assez amusant. Et puis, son mari finit par mourir, bien sûr, elle devient la veuve. Elle est toujours habillée en noir et blanc. Et elle va, parce qu'elle est très intelligente et d'une beauté folle, on l'a dit, elle va faire de ce veuvage un moyen de séduction. C'est-à-dire que cette tenue blanche et noire tranche sur toutes les couleurs de la cour. Et ça marque, évidemment. Et elle va savoir se faire apprécier de François Ier. C'est lui qui lui confie le rôle de civiliser en quelque sorte ses fils lorsqu'ils rentrent de leur captivité en Espagne, parce qu'il ne faut pas oublier que ces deux princes ont été otages d'État de Charles Quint et qu'ils ont passé 4 années atroces en Espagne.
C'est une histoire incroyable d'ailleurs.
Une histoire incroyable, mais enfin ça nous entraînerait peut-être trop loin. Or, il se trouve que le petit Henri a connu Diane depuis toujours, puisqu'elle était à la pouponnière d'Amboise et que c'est elle qui le langeait quand il était petit. Et d'ailleurs, il l'appelle « Maman Brézé ». Donc, attention, quand on parle de Diane et d'Henri, il y a un grand amour. Et c'est vrai qu'Henri, quand il rentre, il a 14 ans, il est fou de cette femme. Et ça va être le grand amour de sa vie. Et je pense qu'elle, peu à peu, elle va entrer dans cette histoire. Elle y voit son intérêt aussi, elle ne voit toujours que son intérêt. Et elle va, elle aussi, devenir amoureuse de ce jeune dauphin qui ensuite deviendra le roi de France. Mais c'est un amour. Alors, est-ce qu'il a été platonique ou consommé? Personne n'est capable de le dire. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est un amour très particulier entre un jeune homme et une femme mûre qui a 20 ans de plus que lui et qui le langeait quand il était au berceau, vous voyez. Donc, n'imaginons pas la romance avec une courtisane, c'est pas ça du tout. D'autant plus que cette Diane tellement extraordinaire va profiter de la faveur inouïe dont elle jouit et qui sera la plus grande faveur de l'histoire de France avec celle de Madame de Pompadour dont nous parlions il y a quelque temps. Elle va profiter de cela pour multiplier les propriétés, les titres, l'influence au conseil. Elle nomme les ministres, les ambassadeurs, elle dirige l'ensemble du pays. Et puis surtout, elle s'enrichit parce que la seule et unique vraie grande passion de cette femme étonnante, ça aura été l'or. Tellement d'or du reste qu'elle a pris l'habitude pour garder, dit-on, sa jeunesse éternelle.
Ça va jusqu'à lui coûter la vie. Hein.
Oui, elle prend de l'or liquide. Mais sauf qu'elle en boit sans doute trop de ces paillettes d'or et ça finira probablement par la porter au tombeau. C'est incroyable.
Ouais, c'est incroyable. Et alors, elles ont finalement, d'une certaine façon, Catherine de Médicis et Diane de Poitiers. J'aime bien dire qu'il y a quatre visages chez...
Elle était donc duchesse de Valentinois, hein, c'est son titre.
Duchesse de Valentinois.
Mais on va l'appeler Diane de Poitiers parce que c'est comme ça qu'on la connaît.
Bah, c'est voilà. Comme ça qu'elle est la plus connue. Moi, j'aime bien parler des quatre visages de Diane de Poitiers, des quatre visages de la distinction. Alors, elles ont toutes les deux gouverné, c'est indiscutable, mais l'une par la politique et l'autre par l'amour d'un roi.
C'est ça.
Si la première a été aux commandes du royaume, ça, on le sait. Qu'en est-il de la seconde, au fond? On peut se poser cette question. La relation entre les deux femmes, alors, on l'a dit, elles sont cousines, elle est complexe, elle est très très difficile à décrypter, mais on nous montre donc ces quatre visages que j'évoquais. Alors, le premier visage, c'est qu'il y a la Diane publique. C'est celle qui est resplendissante, qui a une distinction naturelle.
Grande vertu apparente.
Parce qu'elle est belle, mais elle a du charme.
Ah oui.
Elle opère de façon incroyable. C'est vrai que sa tenue noir et blanc va aider aussi à, une fois qu'elle sera veuve, on touche finalement au pouvoir de la séduction. Et en leadership, on le sait, c'est extrêmement important. Elle est grande, un peu hautaine aussi. Elle regarde un peu les gens de haut parfois.
Très très grande dame.
Mais elle est d'une modernité incroyable, puisque elle prend très soin d'elle. Elle se baigne dans de l'eau glacée, elle fait attention à sa ligne. À l'époque, c'est pas si fréquent que ça. Elle fait attention de bien dormir pour être bien reposée. Enfin,
elle aussi est une grande cavalière, décidément.
Et c'est une grande cavalière. Elle a une hygiène de vie, d'une certaine façon. On dit du reste qu'elle est morte d'avoir trop voulu finalement être belle, hein, ce que tu rappelais, avec cette fameuse potion à base d'or. Alors ça, c'est la première Diane. La deuxième Diane, c'est la Diane amoureuse et tendre. Alors, rappelons, tu l'as dit, qu'elle a été mariée à Louis de Brézé, qui était beaucoup plus âgé qu'elle, mais elle a été très fidèle à Louis Brézé. Elle a été...
Ah, mais elle est d'une vertu irréprochable.
Vertu irréprochable. Et puis, évidemment, le grand amour de sa vie, c'est Henri II. Il va le devenir, en tout cas. Et elle le connaît depuis tout enfant, puisque c'est elle qui s'en est occupée. Mais à l'inverse de son père, qu'on va dire qui était plutôt un homme à femme, c'était pas forcément le cas d'Henri II. Il a eu quelques histoires.
Mais c'était la célèbre Philippa Ducci, par exemple.
Voilà, c'était pas forcément ça qui le guidait. Alors, on l'a dit aussi, Diane avait 20 ans de plus que lui. On parlait d'une cougar aujourd'hui, d'une certaine façon.
Ça nous rappelle d'autres cas, oui.
Mais ça n'était pas ça. Ça n'était pas ça. C'était vraiment, comme tu le disais, c'était pas une relation de favorite à roi. C'était une grande, grande histoire d'amour, digne des romans de chevalerie, d'une certaine façon.
Ah, mais vraiment. Mais d'ailleurs, il lisait énormément de romans de chevalerie, lui, ouais. Henri.
Et alors, c'est très difficile de décrypter quelle a été exactement la relation entre les deux. On sait pas finalement si elle a été vraiment sa maîtresse ou pas. C'est intéressant, je vais citer une lettre que lui-même a écrite en 1552 et qui montre que 30 ans passés pour lui, il se présente plutôt dans un rôle de chevalier servant. On a beaucoup parlé du leadership serviteur des autres, et moins dans le rôle d'un amant. Alors je le cite. « Cependant, je vous supplie d'avoir souvenir de celui qui n'a jamais connu qu'un dieu et une amie, et je vous assure que vous n'aurez point de honte de m'avoir donné le nom de serviteur, lequel je vous supplie de conserver pour jamais. » En fait, il se voit plutôt comme quelqu'un qui est en une sorte d'adoration devant Diane de Poitiers, et c'est vraiment ça.
Et elle va avoir là un rôle absolument essentiel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle soutient le camp catholique, avec le connétable Anne de Montmorency.
Alors, si Catherine de Médicis, elle, a cherché l'équilibre...
Alors, pas du tout Diane.
Partie,
hein,
oui. Pas du tout Diane. Diane, elle a pris vraiment parti. La troisième femme, tu le citais, on ne peut pas ne pas en parler, c'est la femme d'affaires. Mm-hmm. C'est une formidable femme d'affaires. Elle gère elle-même ses domaines. Alors, on la prétend cupide, un peu cynique par moment d'ailleurs, mais elle a une énorme habileté à faire de l'argent, on dirait
aujourd'hui. C'est incroyable,
hein. Alors, ça va l'amener à influencer, pas toujours en prenant de bonnes décisions d'ailleurs, notamment sur les protestants, un peu comme la Pompadour auprès de Louis XV.
C'est très semblable.
Voilà, et certains l'accusent même d'avoir mené cette lutte à mort contre les protestants pour récupérer leurs biens.
Mais oui.
Alors là, on va loin, mais
c'est ce qu'elle faisait, au
demeurant. Son appât du gain, finalement, voilà. Et puis, il y a enfin une autre Diane, le quatrième visage, on va dire, c'est la Diane d'influence. Alors pourquoi ? Parce qu'elle a une ascendance sur le roi qui est indiscutable. Et la question, c'est est-ce qu'elle a joué un rôle politique ? Alors je pense que on peut dire que oui, parce qu'elle ne participait pas au Conseil des ministres.
Non, heureusement quand même, oui.
Quand même pas. Mais on sait avec certitude que le roi lui rendait visite pratiquement tous les jours.
Ah bien sûr.
Et qu'il la questionnait, l'interrogeait, lui demandait conseil. Donc elle a vraiment joué un rôle extrêmement important. Et c'est elle qui, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui va avoir cette idée d'union entre Catherine de Médicis et Henri II pour les raisons qu'on connaît. Et quand cette dernière, comme je le disais aussi, a risqué la répudiation, bah, je disais qu'elle l'a aidée. Elle l'a aidée parce que, à ce moment-là, il y a une potentielle rivale qui pourrait être la nouvelle reine si Catherine n'avait pas eu d'enfant. C'est Louise de Guise, normalement.
Par
et Louise
exemple,
de Guise
oui.
est plutôt une jeune femme charmante et
qui pourrait tenir
et belle.
Tête. Pense Diane beaucoup plus que ne le fera Catherine. Ce qui est fou, c'est le moment de la mort d'Henri II.
Oui.
Parce qu'au moment de la mort d'Henri II, on voit Catherine se venger de Diane, mais avec un luxe de modération et d'équilibre, une fois de plus. C'est-à-dire qu'elle va récupérer son très beau château de Chenonceau, qui à l'époque n'a pas encore... Elle n'a pas encore il n'y a pas encore la galerie au-dessus du Cher, mais c'est un très beau château néanmoins, et elle va l'échanger avec un non moins beau château... qui est beaucoup plus lucratif, qui est celui de Chaumont. Et finalement, on ne peut pas dire du tout de Diane de Poitiers qu'elle ait été lésée dans cette affaire, et elle finira... tranquillement sa vie, elle n'a plus le droit de reparaître à la cour tout de même, mais elle finira tranquillement sa vie, entourée de ses richesses, entourée de sa famille, dans le beau château d'Annette, où il faut aller aujourd'hui encore si l'on veut se faire une idée de ce qu'a pu être en quelque sorte l'esprit de Diane. Et vous savez qu'on a retrouvé sa dépouille il y a quelques années maintenant, et Jean de Viturbe a fait, et c'est votre serviteur qui avait prononcé l'éloge funèbre, il a fait réinhumer...
Très bel éloge d'ailleurs.
Merci. Il a fait réinhumer Diane dans la chapelle funéraire du château d'Annette.
Ça a été un événement incroyable.
Ah oui, magnifique.
Dans la région
il y avait toutes les têtes couronnées d'Europe. Hein.
Exactement, tout le monde est venu. Il faut être honnête, c'était quand même une histoire incroyable que de retrouver ces ossements et de pouvoir la remettre là où elle aurait dû être...
identifiée par Philippe Charlier et les ossements.
Absolument, oui. C'est incroyable.
Eh bien, on peut dire que ces deux femmes auront d'une certaine manière laissé leur empreinte sur le beau XVIe siècle et qu'elles nous donnent à nous une leçon de leadership.
Moi je voudrais parler de... Alors on l'a jamais évoqué, hein, Franck, cette notion, mais c'est l'impact de l'amour sur la prise de décision.
Ah oui, ah oui.
Parce qu'on sait bien qu'un leader, il prend des décisions, c'est le principe. Il a une vision, il sait où il va, il doit prendre des décisions. Mais quand l'amour rentre dans la sphère du pouvoir... Bah, tout est perturbé, à commencer par justement la capacité d'un dirigeant à être neutre, objectif. Et on a eu maintes fois l'occasion de nous en apercevoir que c'est pas si simple. Cléopâtre, avec ses amours, elle a totalement perturbé rien que ça, Jules César...
Et Marc-Antoine.
Marc-Antoine, et jusqu'à les amener à leur perte. Et sans qu'on sache réellement qui était le favori de qui. Est-ce que ces deux hommes étaient les favoris de Cléopâtre ou l'inverse ? Finalement, on n'en sait rien. Il y a eu le prince Potemkin avec la grande Catherine, et puis on a parlé tout à l'heure de Madame de Pompadour, qui était la favorite de Louis XV, et à chaque fois, l'amour vient interférer. Alors, on parlait de la Pompadour... Elle a influencé indiscutablement Louis XV, on l'avait dit à l'époque, pas forcément en bien, elle lui a fait prendre des décisions assez catastrophiques. La guerre de 7 ans, par exemple, a été un désastre absolu. Finalement, la relation entre Diane de Poitiers et Henri II n'a pas été sans conséquences, à la fois pour la France et sur Catherine de Médicis. J'aime à citer le fait que, pour plaire à François Ier, dont elle était très proche d'ailleurs, hein, Catherine de Médicis a mené finalement un certain nombre d'actions. Je suis certain qu'elle n'aurait pas mené si Diane de Poitiers n'avait pas été là. C'est dire l'influence que cela peut avoir. Et d'ailleurs, inversement. C'est-à-dire que je pense que Diane de Poitiers a fait des choses pour se protéger et protéger son statut. Alors, essayons de comprendre le mécanisme qui opère quand on tombe amoureux et comment ça peut interférer. On dit toujours, l'amour rend aveugle.
Oui, oui.
En réalité. Alors, en effet, d'une certaine façon, on sait que les sentiments amoureux désactivent certaines parties de notre cerveau. Ce qui influence les choix que nous faisons. Notamment, il y a une partie du cerveau qui, en quelque sorte, est impactée, c'est le cortex préfrontal. C'est celui que nous connaissons bien, voire même très bien dans nos cultures, puisqu'il sert à prendre les décisions rationnelles. D'autres parties interfèrent, on peut citer par exemple l'amygdale, qui joue un rôle important en leadership, puisque ça gère les peurs, les émotions négatives, et surtout notre jugement, extrêmement important en matière de leadership. En d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que l'amour perturbe notre stabilité émotionnelle, c'est indiscutable, et nous amène parfois, heureusement, on peut le dire, pas toujours, et à prendre des décisions parfois irrationnelles, ou alors à influencer ceux qui ont la capacité de prendre les décisions, et pour tout un tas de raisons. Ça peut être la jalousie, la peur de perdre ce que l'on a, ou d'autres motifs encore. Il est certainement préférable d'en avoir conscience, parce que ça permet... de le prendre en compte, même si je ne suis pas certain qu'on puisse en tirer une énorme leçon, puisque de toute façon, l'amour restera l'amour. Alors, cette rivalité entre les deux grandes dames va s'achever par, ou du moins, on pourrait l'achever par cette déclaration de Catherine de Médicis, quand elle apprend la mort de Diane, elle dit « elle a enfin vieilli ».
Radio Classique.